Chapitre 5. Des Lumières, de la religion et de la morale chez les Anglais. Ce qui constitue les lumières d'une nation, ce sont des idées saines en politique, répandues chez toutes les classes, et une instruction générale dans les sciences et la littérature. Sous le premier de ces rapports, les Anglais n'ont point de rivaux en Europe. Sous le second, je ne connais guère que les Allemands du Nord qu'on puisse leur comparer. Encore les Anglais auraient-ils un avantage qui ne saurait appartenir qu'à leurs institutions. C'est que la première classe de la société se livre autant à l'étude que la seconde. M. Fox écrivait de savantes dissertations sur le grec pendant les intervalles de loisirs que lui laissaient les débats parlementaires. M. Windham a laissé divers traités intéressants sur les mathématiques et sur la littérature. Les Anglais ont de tout temps honoré le savoir. Henri VIII, qui foulait tout aux pieds, respectait cependant les hommes de lettres quand ils ne heurtaient pas ses passions désordonnées. La grande Élisabeth connaissait à fond les langues anciennes et parlait même le latin avec facilité. Jamais on n'a vu s'introduire chez les princes ni chez les nobles d'Angleterre, cette fatuité d'ignorance qu'on a raison de reprocher aux gentilshommes français. On dirait qu'ils se persuadent que le droit divin sur lequel ils fondent leurs privilèges dispense entièrement de l'étude des sciences humaines. Une telle façon de voir ne saurait exister en Angleterre et n'y paraîtrait que ridicule. Rien de factice ne peut réussir dans un pays où tout est soumis à la publicité. Les grands seigneurs anglais seraient aussi honteux de n'avoir pas reçu une éducation classique distinguée que jadis les hommes du second rang, en France, l'étaient de ne pas aller à la cour. Et ces différences ne tiennent pas, comme on le prétend, à la légèreté française. Les érudits les plus persévérants, les penseurs les plus profonds, sont sortis de cette nation, qui est capable de tout quand elle le veut. Mais ces institutions politiques ont été si mauvaises qu'elles ont altéré ces bonnes qualités naturelles. En Angleterre, au contraire, les institutions favorisent tous les genres de progrès intellectuels. Les jurés, les administrations de provinces et de villes, les élections, les journaux donnent à la nation entière une grande part d'intérêt dans la chose publique. De là vient qu'elle est plus instruite. Et qu'au hasard, il vaudrait mieux causer sur des questions politiques avec un fermier anglais qu'avec la plupart des hommes, même les plus éclairés, du continent. Cet admirable bon sens, qui se fonde sur la justice et la sécurité, ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Angleterre ou dans le pays qui lui ressemble, l'Amérique. La pensée doit rester étrangère à des hommes qui n'ont point de droit, car du moment qu'ils apercevraient la vérité, ils seraient malheureux et bientôt après révoltés. Il faut convenir aussi que, dans un pays où la force armée a presque toujours consisté dans la marine et où le commerce a été la principale occupation, il y a nécessairement plus de lumière que là où la défense nationale est confiée aux troupes de ligne et où l'industrie s'est presque uniquement tournée vers la culture de la terre. Le commerce, mettant les hommes en relation avec les intérêts du monde, étend les idées, exerce le jugement et fait sentir sans cesse, par la multiplicité et la diversité des transactions, la nécessité de la justice. Dans les pays où il n'y a que de l'agriculture, la masse de la population peut se composer de serfs attachés à la glèbe et privés de toute instruction. Mais que ferait-on de négociants esclaves et ignorants? Un pays maritime et commerçant est donc par cela seul plus éclairé qu'un autre. Néanmoins, il reste beaucoup à faire pour donner au peuple d'Angleterre une éducation suffisante. Une grande portion de la dernière classe ne sait encore ni lire ni écrire. Et c'est sans doute pour remédier à ce mal qu'on accueille avec tant d'empressement les nouvelles méthodes de Bell et de Lancaster, parce qu'elles peuvent mettre l'instruction à la portée de l'indigence. Le peuple est plus instruit peut-être en Suisse, en Suède et dans quelques États du nord de l'Allemagne, mais il n'y a dans aucun de ces pays cette vigueur de liberté qui préservera l'Angleterre, il faut l'espérer, de la réaction produite par la Révolution de France. Dans un pays où il y a une immense capitale, de grandes richesses concentrées dans un petit nombre de mains, une cour, tout ce qui peut favoriser la corruption du peuple, il faut du temps pour que les lumières s'étendent et luttent avec avantage contre les inconvénients attachés à la disproportion des fortunes. En Écosse, on trouve beaucoup plus d'instruction parmi les paysans qu'en Angleterre, parce qu'il y a moins de richesses chez quelques particuliers et plus d'aisance chez le peuple. La religion presbytérienne, établie en Écosse, exclut la hiérarchie épiscopale que l'Église anglicane a conservée. En conséquence, le choix des simples ministres du culte y est meilleur, et comme ils vivent retirés dans les montagnes, ils s'y consacrent à l'enseignement des paysans. C'est aussi un grand avantage pour l'Écosse que de n'avoir pas, comme l'Angleterre, une taxe des pauvres très forte et très mal conçue, qui entretient la mendicité et crée une classe de gens qui n'osent pas s'écarter de la commune où des secours leur sont assurés. La ville d'Édimbourg n'est pas aussi absorbée que Londres par les affaires publiques, et elle ne renferme pas une telle réunion de fortune et de luxe. Aussi les intérêts philosophiques et littéraires y tiennent-ils plus de place. Mais d'une autre part, les restes du régime féodal se font plus sentir en Écosse qu'en Angleterre. Le jury, dans les affaires civiles, ne s'y est introduit que dernièrement. Il y a beaucoup moins d'élections populaires à proportion que chez les Anglais. Le commerce y exerce moins d'influence, et l'esprit de liberté s'y montre, à quelques exceptions près, avec moins de vigueur. En Irlande, l'ignorance du peuple est effrayante, mais il faut s'en prendre, d'une part, à des préjugés superstitieux, et de l'autre, à la privation presque entière des bienfaits d'une constitution. L'Irlande n'est réunie à l'Angleterre que depuis peu d'années. Jusqu'ici, elle a éprouvé tous les maux de l'arbitraire, et elle s'en est vengée souvent de la façon la plus violente. La nation étant divisée par deux religions qui forment aussi deux partis politiques. Le gouvernement anglais, depuis Charles Ier, a tout accordé aux protestants afin qu'ils puissent maintenir dans la soumission la majorité catholique. Swift, irlandais, est l'un des plus beaux génies des trois royaumes. On raconte que Swift avait senti d'avance que ses facultés l'abandonnaient, et que, se promenant un jour avec un de ses amis, il vit un chêne dont la tête était desséchée, quoique le tronc et les racines fussent encore dans toute leur vigueur. « C'est ainsi que je serai, » dit-il, et sa triste prédiction fut accomplie. Lorsqu'il était tombé dans un tel état de stupeur que, depuis une année, il n'avait pas prononcé un seul mot. Tout à coup, il entendit les cloches de Saint-Patrick, dont il était le doyen, retentir de toutes parts. Il demanda ce que cela signifiait. Ses amis, enchantés de ce qu'il recouvrait la parole, se hâtèrent de lui dire que c'était pour le jour de sa naissance que ces signes de joie avaient lieu. « Ah ! » s'écria-t-il, « tout cela est inutile, maintenant. » Et il rentra dans le silence, que la mort vint bientôt confirmer. Mais le bien qu'il avait fait lui survécut, et c'est pour cela que les hommes de génie passent sur la terre. Swift, irlandais, est l'un des plus beaux génies des trois royaumes, écrivit en 1740 sur le malheureux état de l'Irlande. L'attention des hommes éclairés fut fortement excitée par les écrits de Swift, et les améliorations qui se sont opérées dans ce pays datent d'alors. Lorsque l'Amérique se déclara indépendante et que l'Angleterre fut obligée de la reconnaître comme telle, la nécessité de ménager l'Irlande frappa tous les jours davantage les bons esprits. l'illustre talent de M. Grattan, qui 30 ans plus tard vient de nouveau d'étonner l'Angleterre, se faisait remarquer dès 1782 dans le Parlement d'Irlande. Et par degrés, on a décidé ce pays à l'union avec la Grande-Bretagne. Les préjugés superstitieux y sont encore cependant la source de 1000 maux, car, pour arriver au point de prospérité où est l'Angleterre, les lumières de la réforme religieuse sont aussi nécessaires que l'esprit de liberté du gouvernement représentatif. L'exclusion politique à laquelle les catholiques irlandais sont condamnés est contraire aux vrais principes de la justice. Mais on ne sait comment mettre en possession des bienfaits de la Constitution des hommes aigris par de longs ressentiments. On ne peut donc admirer dans la nation irlandaise, jusqu'à présent, qu'un grand caractère d'indépendance et beaucoup d'esprit naturel. Mais on ne jouit point encore dans ce pays de la sécurité ni de l'instruction, résultat certain de la liberté religieuse et politique. L'Écosse est à beaucoup d'égards l'opposé de l'Irlande, et l'Angleterre tient de l'une et de l'autre. Comme il est impossible chez les Anglais d'être ministre sans siéger dans l'une des deux chambres, et sans discuter avec les représentants de la nation les affaires de l'État, il en résulte nécessairement que de tels ministres ne ressemblent d'ordinaire en rien à la classe des gouvernants sous les monarchies absolues. La considération publique en Angleterre est le premier but des hommes en pouvoir. Ils ne font presque jamais leur fortune dans le ministère. M. Pitt est mort en ne laissant que des dettes qui furent payées par le Parlement. Les sous-secrétaires d'État, les commis, tous les membres de l'administration, éclairés par l'opinion et par leur propre fierté, sont d'une intégrité parfaite. Les ministres ne peuvent favoriser leurs partisans que si les partisans sont pourtant assez distingués pour ne pas provoquer le mécontentement du Parlement. Il ne suffit pas de la faveur du maître pour rester en place. Il faut aussi l'estime des représentants de la nation, et celle-là ne peut s'obtenir que par des talents véritables. Des ministres nommés par les intrigues de cour, tels qu'on en a vu sans cesse en France, ne se soutiendraient pas 24 heures dans la Chambre des communes. On aurait toisé leur médiocrité dans un instant. On ne les verrait pas là tout poudrés, tout costumés, comme les ministres de l'Ancien Régime ou de la cour de Bonaparte. Ils ne seraient point entourés de courtisans, faisant auprès d'eux le métier qu'ils font eux-mêmes auprès du prince, et s'extasiant à l'envi sur la justesse de leurs idées communes et sur la profondeur de leurs conceptions fausses. Un ministre anglais arrive seul dans l'une ou l'autre chambre, sans costume, sans marque distinctive. Aucun genre de charlatanisme ne vient à son aide. Tout le monde l'interroge et le juge, mais aussi tout le monde le respecte, s'il le mérite, parce que, ne pouvant se faire passer que pour ce qu'il est, on le considère surtout à cause de sa valeur personnelle. « On ne fait pas la cour au prince en Angleterre comme en France, dira-t-on, mais on y cherche la popularité, ce qui n'altère pas moins la vérité du caractère. » Dans un pays bien organisé, tel que l'Angleterre, désirer la popularité, c'est vouloir la juste récompense de tout ce qui est bon et noble en soi-même. Il a existé de tout temps des hommes qui ont été vertueux, malgré les inconvénients ou les périls auxquels ils s'exposaient par là. Mais, quand les institutions sociales sont combinées de manière que les intérêts particuliers et les vertus publiques soient d'accord, il ne s'ensuit pas que ces vertus n'aient d'autre base que l'intérêt personnel. Seulement, elles sont plus répandues parce qu'elles sont avantageuses, aussi bien qu'honorables. La science de la liberté, si l'on peut s'exprimer ainsi, au point où elle est cultivée en Angleterre, suppose à elle seule un très haut degré de lumière. Rien n'est plus simple quand une fois vous avez adopté les principes naturels sur lesquels cette doctrine repose. Mais il est certain toutefois que sur le continent, on ne rencontre presque personne qui comprennent d'esprit et de cœur l'Angleterre. On dirait qu'il y a des vérités morales dans lesquelles il faut être né et que le battement de cœur vous les apprend mieux que toutes les discussions théoriques. Néanmoins, pour goûter et pour pratiquer cette liberté qui réunit tous les avantages des vertus républicaines, des lumières philosophiques, des sentiments religieux et de la dignité monarchique. Il faut dans le peuple beaucoup de raison, et dans les hommes de la première classe, beaucoup d'études et de vertus. Les ministres anglais doivent réunir aux qualités d'un homme d'État l'art de s'exprimer avec éloquence. Il s'ensuit que la littérature et la philosophie sont beaucoup plus appréciées parce qu'elles servent efficacement au succès de l'ambition la plus haute. On parle sans cesse de l'empire de la richesse et du rang chez les Anglais. Il faut aussi convenir de l'admiration qu'ils accordent aux vrais talents. Il est possible qu'auprès de la dernière classe de la société, la pairie et la fortune produisent plus d'effet que le nom d'un grand écrivain. Cela doit être ainsi. Mais, s'il s'agit des jouissances de la bonne compagnie, et par conséquent de l'opinion, je ne sais aucun pays du monde où il soit plus avantageux d'être un homme supérieur. Non seulement tous les emplois, tous les rangs peuvent être la récompense du mérite, mais l'estime publique s'exprime d'une manière si flatteuse qu'elle donne des jouissances plus vives que toutes les autres. L'émulation qu'une telle perspective doit exciter est une des principales causes de l'incroyable étendue des connaissances répandues en Angleterre. Si l'on pouvait faire une statistique du savoir, on ne trouverait dans aucun pays une aussi forte proportion de gens versés dans l'étude des langues anciennes, étude malheureusement trop négligée en France. Des bibliothèques particulières sans nombre, des collections de tout genre, des souscriptions abondantes pour toutes les entreprises littéraires. Des établissements d'éducation publique existent partout, dans chaque province, à l'extrémité du pays comme au centre. Enfin, on trouve à chaque pas des hôtels élevés à la pensée, et ces hôtels servent d'appui à ceux de la religion et de la vertu. Grâce à la tolérance, aux institutions politiques et à la liberté de la presse, il y a plus de respect pour la religion et pour les mœurs en Angleterre que dans aucun autre pays de l'Europe. On se plaît à dire en France que c'est précisément par égard pour la religion et pour les mœurs qu'on a de tout temps eu des censeurs. Et néanmoins, il suffit de comparer l'esprit de la littérature en Angleterre, depuis que la liberté de la presse y est établie, avec les divers écrits qui ont paru sous le règne arbitraire de Charles II, et sous celui du Régent et de Louis XV en France. La licence des écrits a été portée chez les Français, dans le dernier siècle, à un degré qui fait horreur. Il en est de même en Italie, où, de tout temps, on a soumis cependant la presse aux restrictions les plus gênantes. L'ignorance dans la masse et l'indépendance la plus désordonnée dans les esprits distingués est toujours le résultat de la contrainte. La littérature anglaise est certainement celle de toutes dans laquelle il y a le plus d'ouvrages philosophiques. L'Écosse renferme encore aujourd'hui des écrivains très forts en ce genre, Dugald Stewart en première ligne, qui ne se lasse point de rechercher la vérité dans la retraite. La critique littéraire est portée au plus haut point dans les journaux, et particulièrement dans celui d'Édimbourg, où des écrivains faits pour être illustres eux-mêmes, Jeffrey, Playfair, Mackintosh, ne dédaignent point d'éclairer les auteurs par les jugements qu'ils portent sur eux. Les publicistes les plus instruits dans les questions de jurisprudence et d'économie politique, tels que Bentham, Malthus, Brookham, sont plus nombreux en Angleterre que partout ailleurs, parce qu'ils ont le juste espoir que leurs idées seront mises en pratique. Des voyages dans toutes les parties du monde rapporte en Angleterre les tributs de la science, non moins bien accueillis que ceux du commerce. Mais, au milieu de tant de richesses intellectuelles, en tout genre, on ne saurait citer aucun de ces ouvrages irreligieux ou licencieux dont la France a été inondée. L'opinion publique les a repoussés dès qu'elle a pu les craindre, et elle s'en charge d'autant plus volontiers qu'elle seule fait la garde à cet égard. La publicité est toujours favorable à la vérité. Or, comme la morale et la religion sont la vérité par excellence, plus vous permettez aux hommes de discuter ces sujets, plus ils s'éclairent et s'ennoblissent. Les tribunaux puniraient avec raison en Angleterre un écrit qui pourrait causer du scandale. Mais aucun ouvrage ne porte cette marque de la censure qui jette d'avance du doute sur les assertions qu'il peut renfermer. la poésie anglaise, que n'alimentent ni les religions, ni l'esprit de faction, ni la licence des mœurs, est encore riche, animée, et n'éprouve pas cette décadence qui menace successivement presque toutes les littératures de l'Europe. La sensibilité et l'imagination entretiennent la jeunesse immortelle de l'âme. On voit un second âge de poésie renaître en Angleterre, parce que l'enthousiasme n'y est point éteint, et que la nature, l'amour et la patrie y exercent toujours une grande puissance. Cowper d'abord, et maintenant Rogers, Moore, Thomas Campbell, Walter Scott, Lord Byron, dans des genres et dans des degrés différents, préparent un nouveau siècle de gloire à la poésie anglaise. Et tandis que tout se dégrade sur le continent, la source éternelle du beau jaillit encore de la terre libre. Dans quel empire le christianisme est-il plus respecté qu'en Angleterre? Où prend-on plus de soin pour le propager? D'où partent des missionnaires en aussi grand nombre pour toutes les parties du monde? La société qui s'est chargée d'envoyer des exemplaires de la Bible dans les pays où la lumière du christianisme est obscurcie ou non développée en faisait passer en France pendant la guerre, et ce soin n'était pas superflu. Mais je me détournerais maintenant de mon sujet si je rappelais ici ce qui peut excuser la France sous ce rapport. La Réformation a mis chez les Anglais les lumières parfaitement en accord avec les sentiments religieux. C'est un grand avantage pour ce pays, et l'exaltation de piété dont on y est susceptible porte toujours à l'austérité de la morale, mais presque jamais à la superstition. Les sectes particulières de l'Angleterre, dont la plus nombreuse est celle des méthodistes, n'ont pour but que le maintien de la pureté sévère du christianisme dans la conduite de la vie, leur renoncement à tous les plaisirs, leur zèle persévérant pour faire le bien, annoncent aux hommes qu'il y a dans l'Évangile des germes de sentiments et de vertus plus féconds encore que tous ceux que nous avons vus se développer jusqu'à ce jour, et dont les saintes fleurs sont destinées peut-être aux générations à venir. Dans un pays religieux, il existe nécessairement aussi de bonnes mœurs, et cependant les passions des Anglais sont très violentes, car c'est une grande erreur de les croire d'un caractère calme parce qu'ils ont habituellement des manières froides. Il n'est point d'homme plus impétueux dans les grandes choses, mais il ressemble à ces chiens d'Albanie envoyés par Porus à Alexandre, qui dédaignaient de se battre contre tout autre adversaire que le lion. Les Anglais sortent de leur apparente tranquillité pour se livrer à des excès en tout genre. Ils cherchent des périls, ils veulent tenter des choses extraordinaires et désirent des émotions fortes. L'activité de l'imagination et la gêne des habitudes les leur rendent nécessaires. Mais ces habitudes elles-mêmes sont fondées sur un grand respect pour la morale. La liberté des journaux, qu'on a voulu nous représenter comme contraire à la délicatesse des mœurs, en est une des causes les plus efficaces. Tout est si connu, si discuté en Angleterre, que la vérité en toute chose est inévitable. Et l'on pourrait se soumettre au jugement du public anglais comme à celui d'un ami qui entrerait dans les détails de votre vie, dans les nuances de votre caractère, pour peser chaque action, ainsi que le veut l'équité, d'après la situation de chaque individu. Plus l'opinion a de puissance en Angleterre, plus il faut de hardiesse pour s'en affranchir. Aussi, les femmes qui la bravent se portent-elles à de grands éclats. Mais combien ces éclats ne sont-ils pas rares, même dans la première classe, la seule où l'on puisse quelquefois en citer des exemples. Dans le second rang, parmi les habitants des provinces, on ne trouve que de bons ménages, des vertus privées, une vie intérieure entièrement consacrée à l'éducation d'une nombreuse famille, qui, nourrie dans la conviction intime de la sainteté du mariage, ne se permettrait pas une pensée légère à cet égard. Comme il n'y a point de couvent en Angleterre, les filles sont le plus souvent élevées chez leurs parents, et l'on peut voir par leur instruction et par leur vertu ce qui vaut le mieux pour une femme, ce genre d'éducation ou celui qui se pratique en Italie. Au moins, dira-t-on, Ces procès de divorce, dans lesquels on admet les discussions les plus indécentes, sont une source de scandale. Il faut qu'ils ne le soient pas, puisque le résultat est tel que je viens de le dire. Ces procès sont un antique usage, et sous ce rapport, de certaines gens devraient les défendre. Mais quoi qu'il en soit, la terreur du scandale est un grand frein. Et d'ailleurs, on n'est point porté en Angleterre comme en France à faire des plaisanteries sur de tels sujets. Une sorte d'austérité, d'accord avec l'esprit des anciens rigoristes protestants, se manifeste dans ces procès. Les juges, comme les spectateurs, y portent une disposition sérieuse, et les conséquences en sont très importantes, puisque le maintien des vertus domestiques en dépend, et qu'il n'y a point de liberté sans elles. Or, comme l'esprit du siècle ne les favorisait pas, c'est un hasard heureux que l'utile ascendant de ces procès de divorce. Car il y a presque toujours du hasard dans le bien ou le mal que peut produire la fidélité aux anciens usages, puisqu'ils conviennent quelquefois au temps présent et que d'autres fois ils n'y sont plus applicables. Heureux le pays où les torts des femmes peuvent être punis avec une si haute sagesse, sans frivolité comme sans vengeance. Il leur est permis de recourir à la protection de l'homme pour lequel elles ont tout sacrifié. Mais elles sont d'ordinaire privées de tous les avantages brillants de la société. Je ne sais si la législation pourrait inventer quelque chose de plus fort et de plus doux, tout ensemble. On s'indignera peut-être contre l'usage de condamner à une peine pécuniaire le séducteur de la femme. Comme tout est empreint d'un sentiment de noblesse en Angleterre, je ne jugerai point légèrement une coutume de ce genre, puisqu'on la conserve. Il faut atteindre, de quelque manière, au tort des hommes envers les mœurs, puisque l'opinion est en général trop relâchée à cet égard, et que personne ne prétendra qu'une grande perte d'argent ne soit pas une punition. D'ailleurs, l'éclat de ces procès funestes fait presque toujours un devoir à l'homme d'épouser la femme qui l'a séduite. Et cette obligation est une garantie qu'il ne se mêle ni légèreté ni mensonge aux sentiments que les hommes se permettent d'exprimer. Quand il n'y a que de l'amour dans l'amour, ces égarements sont à la fois plus rares et plus excusables. J'ai de la peine à m'expliquer, cependant, pourquoi c'est au mari que l'amende est payée par le séducteur. Souvent aussi le mari ne l'accepte pas, et c'est au pauvre qu'il la consacre. Mais il y a lieu de croire que deux motifs ont donné naissance à cette coutume. L'une, de fournir à l'époux, dans une classe sans fortune, les moyens d'élever ses enfants, quand la mère qui en était chargée lui manque. L'autre, et c'est un rapport plus essentiel, de mettre en cause le mari lorsqu'il s'agit des torts de sa femme, afin d'examiner s'il n'a point à se reprocher de torts du même genre envers elle. En Écosse même, l'infidélité du mari dissout le mariage aussi bien que celle de la femme. Et le sentiment du devoir, dans un pays libre, met toujours deux niveaux, le fort et le faible. Tout est constitué en Angleterre de telle manière que l'intérêt de chaque classe, de chaque sexe, de chaque individu, est de se conformer à la morale. La liberté politique est le moyen suprême de cette admirable combinaison. Oui, dira-t-on encore, en ne comprenant que les mots et point les choses. Il est vrai que les Anglais sont toujours gouvernés par l'intérêt. Comme s'il n'y avait aucun rapport entre l'intérêt qui conduit à la vertu et celui qui fait dériver vers le vice. Sans doute l'Angleterre n'est pas une planète à part de la nôtre, dans laquelle les avantages personnels ne soient pas, comme ailleurs, le ressort des actions humaines. On ne peut gouverner les hommes en comptant toujours sur le dévouement et le sacrifice. Mais quand l'ensemble des institutions d'un pays est tel qu'il soit utile d'être honnête, il en résulte une certaine habitude du bien qui se grave dans tous les cœurs. Elle se transmet par le souvenir, l'air qu'on respire en est pénétré, et l'on n'a plus besoin de songer aux inconvénients de tout genre qui seraient la suite de certains torts. Car la force de l'exemple suffit pour en préserver. Chapitre 6. De la société en Angleterre et de ses rapports avec l'ordre social. il n'est pas probable qu'on revoie jamais nulle part, ni même en France, une société comme celle dont on a joui dans ce pays pendant les deux premières années de la Révolution, et à l'époque qui l'a précédée. Les étrangers qui se flattent de ne trouver rien de semblable en Angleterre sont fort désappointés, car ils s'y ennuient souvent beaucoup, bien que ce pays renferme les hommes les plus éclairés et les femmes les plus intéressantes. Les jouissances que la société peut procurer ne s'y rencontrent que rarement. Quand un étranger entend bien l'anglais et qu'il est admis à des réunions peu nombreuses, composées des hommes transcendants du pays, il goûte, s'il en est digne, les plus nobles jouissances que la communication des êtres pensants puisse donner. Mais ce n'est point dans ces fêtes intellectuelles que consiste la société d'Angleterre. On est tous les jours invité à Londres à d'immenses assemblées, où l'on se coudoie comme au parterre. Les femmes y sont en majorité, et d'ordinaire la foule est si grande que leur beauté même n'a pas assez d'espace pour paraître. À plus forte raison, n'y est-il jamais question d'aucun agrément de l'esprit. Il faut une grande force physique pour traverser les salons sans être étouffé et pour remonter dans sa voiture sans accident. Mais je ne vois pas bien qu'aucune autre supériorité soit nécessaire dans une telle cohue. Aussi les hommes sérieux renoncent-ils de très bonne heure à la corvée qu'en Angleterre on appelle le grand monde. Et c'est, il faut le dire, la plus fastidieuse combinaison qu'on puisse former avec des éléments aussi distingués. Ces réunions tiennent à la nécessité d'admettre un très grand nombre de personnes dans le cercle de ses connaissances. La liste des visites que reçoit une dame anglaise est quelquefois de 1200 personnes. La société française était infiniment plus exclusive. L'esprit d'aristocratie qui présidait à la formation des cercles était favorable à l'élégance et à l'amusement, mais nullement d'accord avec la nature d'un État libre. Ainsi donc, en convenant avec franchise que les plaisirs de la société se rencontrent très rarement et très difficilement à Londres, j'examinerai si ces plaisirs sont conciliables avec l'ordre social de l'Angleterre. S'ils ne le sont pas, le choix ne saurait être douteux. Les riches propriétaires anglais remplissent pour la plupart des emplois publics dans leurs terres. Et désirant y être élus députés ou influer sur l'élection de leurs parents et de leurs amis, ils passent 8 ou 9 mois à la campagne. Il en résulte que les habitudes de société sont entièrement interrompues pendant les 2/3 de l'année, et les relations familières et faciles ne se forment qu'en se voyant tous les jours. Dans la partie de Londres occupée par la bonne compagnie, il y a des mois de l'été et de l'automne pendant lesquels la ville a l'air d'être frappée de contagion, tant elle est solitaire. La rentrée du Parlement n'a lieu d'ordinaire que dans le mois de janvier, et l'on ne se réunit à Londres qu'à cette époque. Les hommes, en vivant beaucoup dans leurs terres, chassent ou se promènent à cheval la moitié de la journée. Ils reviennent fatigués à la maison et ne songent qu'à se reposer, quelquefois même à boire, quoiqu'à cet égard les récits qu'on fait des mœurs anglaises soient très exagérés, surtout si on les rapporte au temps actuel. Toutefois, un tel genre de vie ne rend point propre aux agréments de la société. Les Français n'étant appelés ni par leurs affaires, ni par leurs goûts, à demeurer à la campagne, l'on trouvait à Paris, toute l'année, des maisons où l'on pouvait jouir d'une conversation très agréable. Mais de là vient aussi que Paris seul existait en France, tandis qu'en Angleterre, la vie politique se fait sentir dans toutes les provinces. Lorsque les intérêts de l'État sont du ressort de chacun, la conversation qui doit attirer le plus et celles dont les affaires publiques sont le but. Or, dans celles-là, ce n'est pas la légèreté d'esprit, mais l'importance réelle des choses dont il s'agit. Souvent un homme, fort peu agréable d'ailleurs, captive ses auditeurs par la force de son raisonnement et de son savoir. L'art d'être aimable en France consistait à ne jamais épuiser un sujet et à ne pas trop s'arrêter sur ceux qui n'intéressaient pas les femmes. En Angleterre, elles ne se mêlent jamais aux entretiens à voix haute. Les hommes ne les ont point habitués à prendre part à la conversation générale. quand elles se sont retirées du dîner, cette conversation n'en est que plus vive et plus animée. Une maîtresse de maison ne se croit point obligée, comme chez les Français, à conduire la conversation et surtout à prendre garde qu'elle ne languisse. On est très résigné à ce malheur dans les sociétés anglaises, et il paraît beaucoup plus facile à supporter que la nécessité de se mettre en avant pour relever l'entretien. Les femmes, à cet égard, sont d'une extrême timidité, car dans un état libre, les hommes reprenant leur dignité naturelle, les femmes se sentent subordonnées. Il n'en est pas de même d'une monarchie arbitraire, telle qu'elle existait en France. Comme il n'y avait rien d'impossible ni de fixe, les conquêtes de la grâce étaient sans bornes, et les femmes devaient naturellement triompher dans ce genre de combat. Mais en Angleterre, quel ascendant une femme pourrait-elle exercer, quelque aimable qu'elle fût, au milieu des élections populaires, de l'éloquence du Parlement et de l'inflexibilité de la loi? Les ministres n'auraient pas l'idée qu'une femme pût leur adresser une sollicitation sur quelque sujet que ce fût, à moins qu'elle n'eût ni frère, ni fils, ni mari pour s'en charger. Dans le pays de la plus grande publicité, les secrets de l'État sont mieux gardés que nulle part ailleurs. Il n'y a point d'intermédiaire, pour ainsi dire, entre les gazettes et le cabinet des ministres. Et ce cabinet est le plus discret de l'Europe. Il n'y a pas d'exemple qu'une femme ait su, ou du moins dit ce qu'il fallait faire. Dans un pays où les mœurs domestiques sont si régulières, les hommes mariés n'ont point de maîtresse. Il n'y a que les maîtresses qui sachent les secrets, et surtout qui les révèlent. Parmi les moyens de rendre une société plus piquante, il faut compter de la coquetterie. Or, elle n'existe guère en Angleterre qu'entre les jeunes personnes et les jeunes hommes qui peuvent se marier ensemble. Et la conversation n'y gagne rien, au contraire. À peine s'entendent-ils l'un et l'autre, tant ils se parlent à demi-voix. Mais il en résulte qu'on ne se marie pas sans se connaître. Tandis qu'en France, pour s'épargner tout l'ennui de ces timides amours, on ne voyait jamais de jeunes filles dans le monde avant que leur mariage fût conclu par leurs parents. S'il existe, en Angleterre, des femmes qui s'écartent de leurs devoirs, c'est avec un tel mystère ou avec un tel éclat que le désir de plaire en société, de s'y montrer aimable, d'y briller par la grâce et par le mouvement de l'esprit, n'y entre absolument pour rien. En France, la conversation menait à tout. En Angleterre, ce talent est apprécié, mais il n'est utile en rien à l'ambition de ceux qui le possèdent. Les hommes d'État et le peuple choisissent parmi les candidats du pouvoir d'après de tout autre signe des facultés supérieures. La conséquence en est qu'on néglige ce qui ne sert pas, dans ce genre comme dans tous les autres. Le caractère national étant d'ailleurs très enclin à la réserve et à la timidité, il faut un mobile puissant pour en triompher, et ce mobile ne se trouve que dans l'importance des discussions publiques. On a de la peine à se rendre parfaitement compte de ce qu'on appelle en Angleterre la mauvaise honte, shyness, c'est-à-dire cet embarras qui renferme au fond du cœur les expressions de la bienveillance naturelle. Car l'on rencontre souvent les manières les plus froides dans des personnes qui se montreraient les plus généreuses envers vous, si vous aviez besoin d'elles. Les Anglais sont mal à l'aise entre eux, au moins autant qu'avec les étrangers. Ils ne se parlent qu'après avoir été présentés l'un à l'autre. La familiarité ne s'établit que fort à la longue. On ne voit presque jamais en Angleterre les enfants, après leur mariage, demeurer dans la même maison que leurs parents. Le « chez-soi »,« home », est le goût dominant des Anglais. Et peut-être ce penchant a-t-il contribué à leur faire détester le système politique, qui permet ailleurs d'exiler ou d'arrêter arbitrairement. Chaque ménage a sa demeure séparée. Et Londres est composée d'un grand nombre de petites maisons fermées comme des boîtes, et où il n'est guère plus facile de pénétrer. Il n'y a pas même beaucoup de frères et de sœurs qui aillent dîner les uns chez les autres sans être invités. Cette formalité ne rend pas la vie fort amusante, et dans le goût des Anglais pour les voyages, il entre l'envie de se soustraire à la contrainte de leurs usages, aussi bien que le besoin d'échapper au brouillard de leur contrée. Les plaisirs de la société, dans tous les pays, ne concernent jamais que la première classe, c'est-à-dire la classe oisive qui, ayant un grand loisir pour l'amusement, y attache beaucoup de prix. Mais en Angleterre, où chacun a sa carrière et ses occupations, il arrive aux grands seigneurs, comme aux hommes d'affaires des autres pays, d'aimer mieux le délassement physique, les promenades, la campagne, enfin tout plaisir où l'esprit se repose, que la conversation dans laquelle il faut penser et parler presque avec autant de soin que dans les affaires les plus sérieuses. D'ailleurs, le bonheur des Anglais étant fondé sur la vie domestique, il ne leur conviendrait pas que leurs femmes se fissent, comme en France, une famille de choix d'un certain nombre de personnes constamment réunies. On ne doit pas nier, cependant, qu'à tous ces honorables motifs, il ne se mêle quelques défauts, résultat naturel de toute grande association d'hommes. D'abord, quoiqu'il y ait en Angleterre beaucoup plus de fierté que de vanité, cependant on y tient assez à marquer, par les manières, les rangs que la plupart des institutions rapprochent. Il y a de l'égoïsme dans les habitudes, et quelquefois dans le caractère. La richesse et les goûts qu'elle donne en sont la cause. On ne veut se déranger en rien, tant on peut se bien arranger en tout. Les liens de famille, si intimes dans le mariage, le sont très peu sous d'autres rapports, parce que les substitutions affranchissent trop les fils aînés de leurs parents, et séparent aussi les intérêts des frères cadets de ceux de l'héritier de la fortune. Les majorats, nécessaires au maintien de la pairie, ne devraient peut-être pas s'étendre aux autres classes de propriétaires. C'est un reste de féodalité dont il faudrait, s'il est possible, diminuer les fâcheuses conséquences. De là vient aussi que la plupart des femmes sont sans dot, et que dans un pays où l'institution des couvents ne saurait exister, il y a une quantité de jeunes filles que leurs mères ont grande envie de marier, et qui peuvent, avec raison, s'inquiéter de leur avenir. Cet inconvénient, produit par l'inégal partage des fortunes, se fait sentir dans le monde. Car les hommes non mariés y occupent trop l'attention des femmes, et la richesse en général, loin de servir à l'agrément de la société, y nuit nécessairement. Il faut une fortune très considérable pour recevoir ses amis à la campagne, ce qui est pourtant en Angleterre la manière la plus agréable de vivre. Il en faut pour tous les rapports de la société, non que l'on mette de la vanité dans le luxe, mais l'importance que tout le monde attache au genre de jouissance qu'on appelle « comfortables » fait que personne n'oserait, comme jadis dans les plus aimables sociétés de Paris, suppléer à un mauvais dîner par de jolis comptes. Dans tous les pays, les prétentions des jeunes gens à la mode sont hantées sur le défaut national. On en trouve en eux la caricature, mais une caricature a toujours quelques traits de l'original. Les élégants, en France, cherchaient à faire effet et tâchaient d'éblouir par tous les moyens possibles, bons ou mauvais. En Angleterre, cette même classe de personnes veut se distinguer par le dédain, l'insouciance et la perfection du blasé. C'est assez désagréable. Mais dans quel pays du monde la fatuité n'est-elle pas une ressource de l'amour-propre pour cacher la médiocrité naturelle ? Chez un peuple où tout est prononcé, comme en Angleterre, les contrastes sont d'autant plus frappants. La mode a un singulier empire sur les habitudes de la vie, et cependant, il n'est point de nation où l'on trouve autant d'exemples de ce qu'on appelle l'excentricité, c'est-à-dire une manière d'être tout à fait originale et qui ne compte pour rien l'opinion d'autrui. La différence entre les hommes qui vivent sous l'empire des autres et ceux qui existent en eux-mêmes se retrouvent partout. Mais cette opposition des caractères ressort davantage par le mélange bizarre de timidité et d'indépendance qui se fait remarquer chez les Anglais. Ils ne font rien à demi, et tout à coup, ils passent de la servitude envers les moindres usages à l'insouciance la plus complète, du qu'en dira-t-on. Néanmoins, la crainte du ridicule est une des principales causes de la froideur qui règne dans la société anglaise. On n'est jamais accusé d'insipidité en se taisant, et comme personne n'exige de vous d'animer l'entretien, on est plus frappé des hasards auxquels on s'exposerait en parlant que de l'inconvénient du silence. Dans le pays où l'on est le plus attaché à la liberté de la presse et où l'on s'embarrasse le moins des attaques des journaux, les plaisanteries de société sont très redoutées. On considère les gazettes comme les volontaires des partis politiques, et dans ce genre, comme dans tous les autres, les Anglais se plaisent beaucoup à la guerre. Mais la médisance et l'ironie, dont la société est le théâtre, effarouchent singulièrement la délicatesse des femmes et la fierté des hommes. C'est pourquoi l'on se met en avant le moins qu'on peut en présence des autres. Le mouvement et la grâce y perdent nécessairement beaucoup. Dans aucun pays du monde, la réserve et la taciturnité n'ont, je crois, jamais été portées aussi loin que dans quelques sociétés de l'Angleterre. Et si l'on tombe dans ces cercles, on s'explique très bien comment le dégoût de la vie peut saisir ceux qui s'y trouvent enchaînés. Mais hors de ces enceintes glacées, quelle satisfaction de l'âme et de l'esprit ne peut-on pas trouver dans les sociétés anglaises quand on y est heureusement placé? La faveur et la défaveur des ministres et de la cour ne sont absolument de rien dans les rapports de la vie. Et vous feriez rougir un Anglais si vous aviez l'air de penser à la place qu'il occupe ou au crédit dont il peut jouir. Un sentiment de fierté lui fait toujours croire que ses circonstances n'ajoutent et n'ôtent rien à son mérite personnel. Les disgrâces politiques ne peuvent influer sur les agréments dont on jouit dans le grand monde. Le parti de l'opposition y est aussi brillant que le parti ministériel. La fortune, le rang, l'esprit, les talents, les vertus sont partagés entre eux. Et jamais aucun des deux n'imaginerait de s'éloigner ou de se rapprocher d'une personne par ses calculs d'ambition qui ont toujours dominé en France. Quitter ses amis parce qu'ils n'ont plus de pouvoir et s'en rapprocher parce qu'ils en ont est un genre de tactique presque inconnu en Angleterre. Et si les succès de société ne conduisent pas aux emplois publics, au moins la liberté de la société n'est-elle pas altérée par des combinaisons étrangères au plaisir qu'on y peut goûter? On y trouve presque invariablement la sûreté et la vérité, qui sont la base de toutes les jouissances, puisqu'elles les garantissent toutes. Vous n'avez point à craindre ces tracasseries continuelles qui, ailleurs, remplissent la vie d'inquiétude. Ce que vous possédez en fait de liaison et d'amitié, vous ne pouvez le perdre que par votre faute, et vous n'avez jamais aucune raison de douter des expressions de bienveillance qui vous sont adressées. Car les actions les surpasseront, et la durée les consacrera. La vérité, surtout, est une des qualités les plus éminentes du caractère anglais. La publicité qui règne dans les affaires, les discussions dans lesquelles on arrive au fond de toute chose ont contribué sans doute à cette habitude de vérité parfaite qui ne saurait exister que dans un pays où la dissimulation ne conduit à rien qu'au désagrément d'être découvert. On s'est plu à répéter sur le continent que les Anglais étaient impolis, et une certaine habitude d'indépendance, une grande aversion pour la gêne, peuvent avoir donné lieu à ce jugement. Mais je ne connais pas une politesse ni une protection aussi délicate que celle des Anglais pour les femmes, dans toutes les circonstances de la vie. S'agit-il d'un danger, d'un embarras, d'un service à rendre, il n'est rien qu'ils négligent pour secourir les êtres faibles. Depuis le matelot, qui dans la tempête appuie vos pas chancelants, jusqu'aux gentilshommes anglais du plus haut rang, jamais une femme ne se voit exposée à une difficulté quelconque sans être soutenue. Et l'on retrouve partout ce mélange heureux qui caractérise l'Angleterre. L'austérité républicaine dans la vie domestique et l'esprit de chevalerie dans les rapports de la société. Une qualité non moins aimable des Anglais, c'est leur disposition à l'enthousiasme. Ce peuple ne peut rien voir de remarquable sans l'encourager par les louanges les plus flatteuses. On a donc raison d'aller en Angleterre dans quelque situation malheureuse que l'on se trouve, si l'on possède en soi quelque chose de véritablement distingué. Mais si l'on y arrive comme la plupart des riches oisifs de l'Europe, qui voyagent pour passer un carnaval en Italie et un printemps à Londres, il n'est point de pays qui trompe davantage l'attente, et on en partira sûrement sans s'être douté que l'on a vu le plus beau modèle de l'ordre social et le seul qui, pendant longtemps, a fait espérer encore en la nature humaine. Je n'oublierai jamais la société de Lord Grey, de Lord Lansdowne et de Lord Harrowby. Je les cite parce qu'ils appartiennent tous les trois à des partis ou à des nuances de partis différentes, qui renferment à peu près toutes les opinions politiques de l'Angleterre. Il en est d'autres que j'aurais eu de même un grand plaisir à rappeler. Lord Grey est un des plus ardents amis de la liberté dans la Chambre des Pairs. La noblesse de sa naissance, de sa figure et de ses manières le préserve plus que personne de cette espèce de popularité vulgaire qu'on veut attribuer aux partisans des droits des nations. Et je défierais qui que ce soit de ne pas éprouver pour lui tous les genres de respect. Son éloquence au Parlement est généralement admirée. Il réunit à l'élégance du langage une force de conviction intérieure qui fait partager ce qu'il éprouve. Les questions politiques l'émeuvent parce qu'un généreux enthousiasme est la source de ses opinions. Comme il s'exprime toujours dans la société avec calme et simplicité sur ce qui l'intéresse le plus, c'est à la pâleur de son visage que l'on s'aperçoit quelquefois de la vivacité de ses sentiments. Mais c'est sans vouloir ni cacher ni montrer les affections de son âme qu'il parle sur des sujets pour lesquels il donnerait sa vie. Chacun sait qu'il a refusé deux fois d'être Premier ministre, parce qu'il ne s'accordait pas, sous quelque rapport, avec le prince qui le nommait. Quelle qu'ait été la diversité des manières de voir sur les motifs de cette résolution, rien ne paraît plus simple en Angleterre que de ne pas vouloir être ministre. Je ne citerai donc pas le refus de Lord Grey s'il avait fallu, pour accepter, renoncer en rien à ses principes politiques. Mais les scrupules par lesquels il s'est déterminé étaient poussés trop loin pour être approuvés de tout le monde. Et cependant, les hommes de son parti, tout en le blâmant à cet égard, n'ont pas cru possible d'entrer sans lui dans aucune des places qui leur étaient offertes. La maison de Lord Grey offre l'exemple de ses vertus domestiques si rares ailleurs dans les premières classes. Sa femme, qui ne vit que pour lui, est digne par ses sentiments de l'honneur que le ciel lui a départi en l'unissant à un tel homme. 13 enfants, encore jeunes, sont élevés par leurs parents et vivent avec eux pendant 8 mois de l'année dans leur château au fond de l'Angleterre, où ils n'ont presque jamais d'autre distraction que leur cercle de famille et leurs lectures habituelles. Je me trouvais à Londres un soir dans ce sanctuaire des plus nobles et des plus touchantes vertus. Lady Grey voulut bien demander à ses filles de faire de la musique, et 4 de ces jeunes personnes, d'une candeur et d'une grâce angélique, jouèrent des duos de harpe et de piano avec un accord admirable, qui supposait une grande habitude de s'exercer ensemble. Le père les écoutait avec une sensibilité touchante. Les vertus qu'il développe dans sa famille servent de garantie à la pureté des vœux qu'il forme pour son pays. Lord Lansdowne est aussi membre de l'opposition, mais moins prononcé dans ses opinions politiques. C'est par une profonde étude de l'administration et des finances qu'il a déjà servi et qu'il doit encore servir l'État. Riche et grand seigneur, jeune et singulièrement heureux dans le choix de sa compagne, aucun de ses avantages ne le porte à l'indolence. Et c'est par son mérite supérieur qu'il est au premier rang, dans un pays où rien ne peut dispenser de valoir par soi-même. À sa campagne, à Bowood, j'ai vu la plus belle réunion d'hommes éclairés que l'Angleterre, et par conséquent le monde, puisse offrir. Sir James McIntosh, désigné par l'opinion pour continuer Hume et pour le surpasser, en écrivant l'histoire de la liberté constitutionnelle de l'Angleterre. Homme si universel dans ses connaissances et si brillant dans sa conversation, que les Anglais le citent avec orgueil aux étrangers, pour prouver que, dans ce genre aussi, ils peuvent être les premiers. Sir Samuel Romilly, la lumière et l'honneur de cette jurisprudence anglaise, qui est elle-même l'objet de tous les respects de l'humanité. Des poètes, des hommes de lettres, non moins remarquables dans leur carrière que les hommes d'État dans la leur. Chacun contribuait au pur éclat d'une telle société et de l'hôte illustre qui la présidait. Car en Angleterre, la culture de l'esprit et la morale sont presque toujours réunies. En effet, à une certaine hauteur, elles ne sauraient être séparées. Lord Arobaille, président du conseil privé, est naturellement du parti ministériel, ou Tory. Mais de même que Lord Grey a toute la dignité de l'aristocratie dans son caractère, Lord Arobaille tient par son esprit à toutes les lumières du parti libéral. Il connaît les littératures étrangères et celles de France en particulier, un peu mieux que nous-mêmes. J'avais l'honneur de le voir quelquefois au milieu des plus grandes crises de l'avant-dernière guerre. Et, tandis qu'ailleurs, on est obligé de composer ses paroles et son maintien devant un ministre, lorsqu'il s'agit des affaires publiques, Lord Arobaille se serait tenu pour offensé si l'on s'était souvenu qu'il était autre que lui-même, en causant sur des questions d'un intérêt général. On ne voyait point à sa table, ni chez les autres ministres anglais, ces sortes de flatteurs subalternes qui entourent les puissants dans les monarchies absolues. Il n'est point de classe dans laquelle on pût en trouver en Angleterre, ni d'hommes en place qui en voulussent. Lord Arobaille est remarquable comme orateur, par la pureté de son langage et par l'ironie brillante dont il sait à propos se servir. Aussi attache-t-il avec raison beaucoup plus de prix à sa réputation personnelle qu'à son emploi passager. Lord Arobaille, secondé par sa spirituelle compagne, offre dans sa maison le plus parfait exemple de ce que peut être une conversation tour à tour littéraire et politique, et dans laquelle ces deux sujets sont traités avec une égale aisance. Nous avons en France un grand nombre de femmes qui se sont faites un nom, seulement par le talent de causer ou d'écrire des lettres qui ressemblent à la conversation. Madame de Sévigné est la première de toutes en ce genre. Mais depuis, Madame de Tencin, Madame du Deffand, Mademoiselle de l'Espinasse et plusieurs autres ont été célébrées à cause de l'agrément de leur esprit. J'ai déjà dit que l'état social en Angleterre ne permettait guère ce genre de succès et qu'on en saurait citer d'exemples. Il existe cependant plusieurs femmes remarquables comme écrivains. Miss Edgeworth, Madame d'Arblay, autrefois Miss Burney, Madame Anna Moore, Madame Inchbald, Madame Opie, Mademoiselle Bowie sont admirées en Angleterre et lues avidement en français. Mais elles vivent en général très retirées et leur influence se borne à leurs livres. Si donc on voulait citer une femme qui réunit au suprême degré ce qui constitue la force et la beauté morale du caractère anglais, il faudrait la chercher dans l'histoire. Lady Russell, la femme de l'illustre Lord Russell, qui périt sous Charles II pour s'être opposée aux empiétements du pouvoir royal, me paraît le vrai modèle d'une femme anglaise dans toute sa perfection. Le tribunal qui jugeait Lord Russell lui demanda quelle personne il voulait désigner pour lui servir de secrétaire pendant son procès. Il choisit Lady Russell, parce que, dit-il, elle réunit les lumières d'un homme à la tendre affection d'une épouse. Lady Russell, qui adorait son mari, soutint néanmoins la présence de ces juges iniques et le barbare sophisme de leurs interrogations avec toute la présence d'esprit que lui commandait l'espoir d'être utile. Ce fut en vain. La sentence de mort étant prononcée, Lady Russell alla se jeter aux pieds de Charles II, en l'implorant au nom de Lord Southampton, dont elle était la fille, et qui s'était dévouée pour la cause de Charles Ier. Mais le souvenir des services rendus au père ne put rien sur le fils, car sa frivolité ne l'empêchait pas d'être cruel. Lord Russell, en se séparant de sa femme pour marcher à l'échafaud, prononça ces paroles remarquables. « À présent, la douleur de la mort est passée. En effet, il y a telle affection dont on peut se composer toute l'existence. On a publié des lettres de Lady Russell, écrites après la mort de son époux, dans lesquelles on trouve l'empreinte de la plus profonde douleur contenue par la résignation religieuse. Elle vécut pour élever ses enfants. Elle vécut parce qu'elle ne se serait pas permis de se donner la mort. À force de pleurer, elle devint aveugle, et toujours le souvenir de celui qu'elle avait tant aimé fut vivant dans son cœur. Elle eut un moment de joie quand la liberté s'établit en 1668. La sentence portée contre Lord Russell fut révoquée et ses opinions triomphèrent. Les partisans de Guillaume III et la reine Anne elle-même consultaient souvent Lady Russell sur les affaires publiques, comme ayant conservé quelques étincelles des lumières de Lord Russell. C'est à ce titre aussi qu'elle répondait et qu'à travers le profond deuil de son âme, elle s'intéressait à la noble cause pour laquelle le sang de son époux avait été répandu. Toujours, elle fut la veuve de Lord Russell, et c'est par l'unité de ce sentiment qu'elle mérite d'être admirée. Telle serait encore une femme vraiment anglaise si une scène aussi tragique, une épreuve aussi terrible, pouvait se présenter de nos jours, et si, grâce à la liberté, de semblables malheurs n'étaient pas écartés à jamais. La durée des regrets causés par la perte de ceux qu'on aime absorbe souvent en Angleterre la vie des personnes qui les ont éprouvées. Si les femmes n'ont pas une existence personnelle active, elles vivent avec d'autant plus de force dans les objets de leur attachement. Les morts ne sont point oubliés dans cette contrée où l'âme humaine a toute sa beauté. Et l'honorable constance qui lutte contre l'instabilité de ce monde élève les sentiments du cœur au rang des choses éternelles.